Bonjour à toutes et à tous. Je suis chargé de vous présenter les traits les plus saillants de cette proposition de directive révisée ou refondue. La Commission utilise alternativement les deux termes, qui est destinée à se substituer à la directive retour de 2008. Ce projet de directive révisée a été présenté par la Commission le 12 septembre de l'année dernière, donc il y a juste un peu plus d'un an. Et elle a actuellement, elle va être examinée dans les semaines qui viennent par le Parlement européen après que le Conseil l'ait lui-même déjà examinée et assez largement amendée. En réalité, cette proposition ne vient pas de nulle part. Ça fait plusieurs années déjà que la Commission insistait beaucoup à travers diverses recommandations auprès des États membres pour qu'ils renforcent ce qu'on appelle leur mécanisme de retour. Et avait clairement annoncé son intention de réviser cette directive de 2008. Ce qui a été l'impulsion déterminante, c'est le Conseil européen du 28 juin 2018, où trois grands axes ou trois grands principes ont été adoptés. Renforcer les instruments de solidarité européenne. Alors tiens, on se dit, tiens, ça c'est intéressant, c'est peut-être la solidarité pour l'accueil des demandeurs de protection. En réalité, on ajoute tout de suite, notamment le corps européen des gardes-frontières et de gardes-côtes. La solidarité, elle s'exprime surtout dans le renforcement des moyens mis en commun pour rejeter évidemment les réfugiés. Deuxième point, assurer une gestion efficace des frontières extérieures et de la migration. Ça, on voit bien ce que c'est hein, toute la politique d'externalisation. Et puis, établir une politique européenne plus efficace et cohérente en matière de retour. On est en plein dans notre sujet. Sur ce point, évidemment, le prétexte qui est agité sans arrêt, c'est la pression migratoire qui, depuis l'entrée en vigueur de la directive 2010, en 2010, s'est considérablement accrue. Alors, pour justifier cette directive révisée, la Commission, et je reprends ces termes, hein, parce qu'autant se caler sur ce qu'elle dit, fait valoir deux raisons majeures de procéder à cette révision. Elle nous explique qu'il y a deux grands problèmes qui viennent contrecarrer la mise en œuvre des politiques de retour et la mise en œuvre donc de la directive de 2008. Premier problème, les États membres rencontrent des difficultés et des obstacles dans les procédures de retour. Et ces difficultés et ces obstacles dans la mise en œuvre des procédures de retour ont elles-mêmes trois causes. Des pratiques nationales qui varient d'un État membre à l'autre, c'est ce que disait Catherine tout à l'heure, hein, la variété des modalités de mise en œuvre des directives. Deuxième problème, le manque de coopération de la part des étrangers qui font l'objet des procédures de retour. Donc, ils sont pas sympas quand même. Ils y mettent pas du leur. Et troisième cause, qui vient expliquer ces difficultés, les États membres ne sont pas suffisamment bien équipés pour permettre aux autorités compétentes d'échanger rapidement les informations. J'insiste sur ce point parce que vous allez voir la traduction que ça va avoir dans le projet de directive révisé. C'est assez glaçant. Deuxième difficulté dont la Commission fait état pour justifier son projet de directive révisée, l'efficacité de la politique de l'Union en matière de retour dépend également de la coopération pays d'origine et en dépit de tous les instruments de coopération plus ou moins contraignants qui sont mis en œuvre et sur lesquels la Commission pourtant s'agite beaucoup, elle constate que malgré ses efforts, l'effectivité des retours ne s'est guère améliorée. Au contraire, le taux de retour dans l'ensemble de l'UE est même tombé de 45,8 en 2016 à 36,6 seulement en 2017. Donc, compte tenu de cette situation dramatique, la Commission dit qu'il y a trois axes d'intervention. Il faut d'abord réduire la durée des procédures de retour. Il faut que ça aille plus vite. Il faut faire tourner la machine de retour plus rapidement. Il faut, et ça c'est très important et c'est directement en lien avec ce que vient d'expliquer Catherine, mieux lier procédures d'asile et procédures de retour, c'est-à-dire faire en sorte que tous les déboutés du droit d'asile trouvent immédiatement la porte de sortie. Et troisième axe, recourir plus efficacement aux mesures destinées à prévenir la fuite. Donc avec ces trois objectifs, on voit se dessiner à peu près l'essentiel des dispositions de la directive que je vais maintenant vous présenter. Je reprends l'ordre des articles de la proposition de directive révisée. Il est un peu arbitraire, mais après tout, pourquoi pas? De toute façon, il s'agira simplement de mettre en évidence vraiment les aspects les plus contraignants ou répressifs de cette proposition de directive révisée. La première disposition qui vraiment attire l'attention, c'est l'article 6 sur le risque de fuite. Pourquoi est-ce que cette disposition est importante? Parce que le risque de fuite dans le système de retour tel qu'il est organisé par la directive de 2008, il permet à l'administration deux choses. D'abord, de refuser un départ volontaire. Quand il y a risque de fuite, je peux refuser à la personne que je décide d'éloigner de lui accorder un délai de départ volontaire. Et deuxièmement, encore plus important, si je caractérise le risque de fuite, moi, administration, je peux placer en rétention. Donc, vous voyez que les enjeux sont importants sur ce risque de fuite. Alors, dans la situation actuelle, directive de 2008, la directive prévoit simplement que les États membres doivent définir les critères objectifs du risque de fuite. Donc, on renvoie intégralement aux législations nationales la définition des critères du risque de fuite. Évidemment, c'est dans ce domaine, entre autres, que la Commission se plaint d'une extrême variété, hétérogénéité des législations nationales et prend les choses en main en établissant dans son projet de directive révisée une liste minimale que chaque État membre devra introduire dans sa législation nationale des situations caractérisant le risque de fuite. Et quand on dit une liste minimale, c'est pas rien parce qu'il y a 16 critères dans la proposition de directive, donc 16 situations qui sont censées caractériser le risque de fuite et que les États membres donc devront introduire dans leur législation nationale. En réalité, vous verrez, si vous avez le temps de vous pencher sur cette liste des 16 critères, qu'au fond, il y a peu de personnes qui échapperont à l'un ou l'autre de ces critères. Donc la plupart des étrangers en situation irrégulière seront peu ou prou considérés ou susceptibles d'être considérés comme présentant un risque de fuite. Je vous donne simplement deux exemples sur les 16. L'entrée irrégulière sur le territoire des États membres, le simple fait d'être entré irrégulièrement vous fait soupçonner de vouloir fuir, donc déjà c'est mal barré. Et puis l'absence de domicile fixe. Vous savez évidemment, si on n'a pas de domicile, on est un fuyard potentiel. Autre élément toujours dans cette disposition de l'article 6, sur ces 16 critères, 4 de ces critères devront être considérés comme créant automatiquement une présomption de risque de fuite. C'est-à-dire que non seulement les États membres devront les introduire dans leur législation, mais pour ces 4 critères, ils devront préciser que toute personne qui se trouve dans l'une des 4 situations énumérées est présumée. C'est-à-dire que la conséquence directe, c'est que la personne devra prouver, c'est un renversement de la charte de la preuve, qu'elle ne présente pas de risque de fuite. Bonjour à la difficulté pour prouver quelque chose de négatif, un fait négatif. Notamment dans ces 4 critères qui constitueront des présomptions, il y a l'inobservation d'une mesure visant à empêcher la fuite, telle que l'obligation de pointage ou l'obligation de résider dans un lieu imposé. Donc vous voyez que très vite, toutes les personnes qui seront par exemple assignées à résidence ou seront suspectées immédiatement d'être susceptibles de fuir si elles n'ont pas pointé, si elles ont raté un pointage. Deuxième disposition de la directive qui doit appeler notre attention, c'est ce que la directive appelle l'obligation de coopérer. Hein, vous voyez tout de suite le lien avec ce qui était dit sur ces étrangers, décidément, sont assez peu coopératifs dans la mise en œuvre des procédures d'éloignement. Donc là, la directive adopte des dispositions entièrement nouvelles, hein, qui ne figurent pas du tout dans la directive de 2008, qui ont pour objet d'abord de créer une obligation formelle de coopérer. Donc elle est dit. Devra être dit dans les législations nationales que la personne doit coopérer, précise le contenu de cette obligation quant au devoir que ça va imposer aux personnes, c'est-à-dire qu'est-ce que recouvre cette obligation de coopérer, et puis cette personne devra être informée des conséquences d'un manquement, évidemment, aux diverses obligations qui seront considérées comme constituant l'obligation de coopérer. Vous imaginez un peu de quoi il s'agit. C'est évidemment apporter à l'administration tous les éléments nécessaires à l'organisation du retour, non seulement les éléments d'identité, mais aussi la nationalité, l'âge, les pays et lieux de résidence antérieurs, les itinéraires de voyage et documents de voyage. C'est-à-dire que dans l'obligation de coopérer, la personne va devoir rendre compte très précisément et documents à l'appui de tout son itinéraire depuis le départ de son pays d'origine jusqu'à l'arrivée dans le pays où elle reçoit cette décision de retour. Et bien sûr, ces obligations sont considérées comme minimales. La directive dit, voilà les obligations qui devront notamment être remplies par la personne qui fait l'objet de la décision de retour. Autant dire que les législations nationales pourront enrichir encore le contenu de ces obligations imposées aux personnes faisant l'objet d'une décision de retour. Le risque est évidemment majeur puisque Parmi les obligations qui leur seront imposées, devront figurer notamment deux obligations. C'est rester présent et disponible tout au long des procédures. Et ça, je crains beaucoup que cette obligation de rester présent et disponible soit un instrument, évidemment, trop efficace dans les mains de l'administration pour mettre systématiquement une personne en risque de fuite et donc en rétention, puisque rester présent, on ne sait pas rester présent où, dans quelles limites, etc. Donc c'est l'administration qui évaluera ce qu'est cette obligation de rester présent, et l'obligation de disponibilité, c'est tout aussi vague, et donc c'est l'administration qui chaque fois dira « Oh ben, je considère que vous n'êtes pas très disponible ». Sauf à ce que les législations nationales précisent le contenu de cette obligation, en tout cas, en l'état de la proposition de directive révisée, c'est évidemment très inquiétant. Troisième disposition, j'essaye d'aller aussi vite que possible. Troisième disposition, la directive a introduit un cas supplémentaire d'interdiction de retour. Vous connaissez le mécanisme de l'interdiction de retour, hein, l'IRTF, que dans la directive on appelle l'interdiction d'entrée. C'est-à-dire que quand on délivre à quelqu'un une obligation de retour, on lui fait interdiction de rentrer. Hein. Donc, quel que soit le terme retenu, c'est toujours bien la même chose qu'il s'agit, c'est-à-dire on vous éloigne et en plus on a sorti cette décision d'éloignement d'une décision qui vous fait interdiction de revenir pendant un certain délai. Là, la proposition de directive révisée crée une interdiction de retour pour les personnes qui sont découvertes comme étant en situation irrégulière au moment où elles quittent le territoire et au moment où elles quittent le territoire de leur plein gré. C'est-à-dire quelqu'un qui ne fait l'objet d'aucune décision de retour, mais qui décide de passer la frontière parce qu'elle a quelque chose à faire au pays d'à côté, dans le pays d'à côté. On découvre au moment où elle sort qu'elle est en situation régulière, on lui colle une interdiction de retour. Et évidemment, avec inscription dans le fichier Schengen, donc ce qui fait que la personne sera définitivement blacklistée pour l'avenir. Et cerise sur le gâteau, un amendement du Conseil à cette proposition de directive révisée prévoit que la durée maximale de l'interdiction de retour, non seulement dans ce cas-là, mais toutes les interdictions de retour, hein, pas seulement celle-là, serait portée de 5 à 10 ans. Donc bannissement pendant 10 ans dans toutes les situations d'éloignement, pratiquement, en tout cas toutes celles qui peuvent être accompagnées d'une interdiction de retour, et elles sont, on le sait, extrêmement nombreuses. Nouvelle disposition, je passe maintenant à l'article 14, ce qu'on appelle la gestion des retours. Alors, le terme est pudique, mais la réalité est extrêmement inquiétante, puisque cette disposition, qui est là aussi entièrement nouvelle, hein, qu'il n'y a rien d'équivalent dans la directive actuelle, prévoit l'obligation pour les États membres de créer un système national de gestion des retours, c'est-à-dire en fait un fichier, destiné au recueil et au traitement de toutes les informations nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de la directive. Et plus précisément, la gestion des informations individuelles des personnes ayant fait l'objet d'une décision d'éloignement. Donc, fichier nominatif avec recueil de données personnelles. Et ce fichier doit être conçu, j'ouvre les guillemets, de manière à assurer une compatibilité technique permettant une communication avec la plateforme intégrée de gestion des retours prévue à l'article 50 du projet de règlement relatif aux gardes-frontières, c'est-à-dire système Frontex, plateforme informatisée Frontex, qui va être en interopérabilité avec l'ensemble des dispositifs nationaux de fichage des personnes faisant l'objet de décisions de retour. Ce qui est extrêmement inquiétant, c'est que ce fameux projet de règlement qui va organiser la plateforme informatisée de gestion intégrée des retours par Frontex, ce projet de règlement prévoit, certes que normalement, le règlement d'octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel doit s'appliquer. Mais ce règlement prévoit aussi que l'agence, c'est-à-dire Frontex, peut adopter des règles internes visant à restreindre l'application de ces droits. C'est-à-dire que Frontex, le règlement, pourra autoriser Frontex à se dispenser du respect de certaines règles relatives à la protection des données personnelles. On n'en sait pas plus pour le moment, mais c'est évidemment extrêmement inquiétant. Autre disposition, celle qui traite des voies de recours qui pourront être exercées par les personnes éloignées contre les décisions d'éloignement. Donc, là, vous avez sans doute déjà compris de quoi il peut s'agir. C'est l'objectif qui consiste à accélérer les procédures de retour. Et par conséquent, les États membres devront adopter dans leur législation nationale des dispositions qui vont limiter d'abord les délais d'introduction des recours contre les décisions d'éloignement, 14 jours au maximum, 30 jours lorsque la décision de retour est fondée sur une décision refusant un titre de séjour, mais 5 jours seulement lorsque la décision de retour fait suite à une décision définitive de rejet d'une demande de protection internationale. On voit bien là l'articulation déboutée de l'asile, éloignement immédiat. Là, le délai de recours est de 5 jours maximum imposé par la directive ou par la future directive. Délai de traitement de ces recours évidemment accéléré. Limitation des délais d'introduction des demandes tendant à obtenir la suspension de l'exécution de l'éloignement et limiter l'effet suspensif de ces recours à la seule procédure de première instance, étant enfin précisé que ces recours, la directive prévoira que les États membres ne peuvent autoriser qu'un seul niveau de recours contre les décisions d'éloignement, c'est-à-dire qu'il ne sera plus possible de pouvoir faire appel de la décision qui rejette le recours contre la décision d'éloignement. C'est-à-dire un seul degré de juridiction, on n'en a plus rien à faire des voies de recours. Avant-dernière disposition, pour vous rassurer quand même sur le timing, sur la rétention, je suis un peu traumatisé, oui. Sur la rétention, évidemment, il s'agit, vous l'avez déjà compris, d'élargir notablement les cas dans lesquels elle pourra être décidée et d'augmenter sa durée maximale. Alors, d'abord, sur le premier point, sur le champ d'application de la rétention. Vous savez que dans l'état actuel de la directive de 2008, la rétention ne peut être décidée que pour deux motifs. En réalité, on voit bien que les États membres en usent très largement. Mais si on respectait à la lettre la directive de 2008, il n'y a que deux motifs de placement en rétention. C'est le fameux risque de fuite ou la personne qui évite ou empêche l'organisation de son éloignement. Dans la proposition de directive révisée, trois points essentiels. Le risque de fuite sera désormais déterminé conformément à l'article 6, hein, celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec la liste des 14 cas, etc. Deuxième point, à ces deux motifs de risque de fuite qui existent actuellement, sera ajouté un troisième, la personne constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale. Ça revient comme un leitmotiv tout au long de la directive, hein. Le risque d'atteinte à l'ordre public devient une espèce de tarte à la crème qui permet et autorise à peu près toutes les dispositions les plus répressives. Et puis surtout, le plus important, la liste des trois motifs qui autorisent le placement en rétention, donc deux devenus trois, n'est plus exhaustive. C'est-à-dire que chaque État membre pourra y ajouter d'autres cas. Donc c'est la porte ouverte évidemment au placement en rétention pratiquement sans restriction ni limite. Sur la question de la durée, vous savez que dans l'état actuel de la directive, la durée de la rétention est fixée par chaque État membre et ne peut pas dépasser 6 mois. La directive pose actuellement une limite de 6 mois. Dans la proposition de directive, il est indiqué que chaque État membre fixe une durée maximale de rétention d'au moins 3 mois et d'au maximum 6 mois. Alors il faut essayer de comprendre ce qu'est une durée maximale de rétention d'au moins 3 mois et d'au maximum 6 mois. En réalité, si on réfléchit, ça veut dire qu'il n'est plus possible de fixer un maximum inférieur à 3 mois. C'est-à-dire toute législation nationale qui fixerait un maximum inférieur à 3 mois ne serait plus dans les clous de la directive. Mais par contre, le maximum de 6 mois reste le même. C'est d'ailleurs au fond sur cette proposition de directive révisée que nous, on s'est déjà aligné avec la loi du 10 septembre 2018, hein, puisque précisément, on vient d'atteindre les fameux 3 mois. S'agissant de la rétention des mineurs, la proposition de refonte ajoute que le droit national autorise la rétention des mineurs. Des durées de rétention plus courtes peuvent être prévues dans de tels cas. Donc la commission, en réalité, ne voit aucun inconvénient à ce que des mineurs puissent être placés en rétention pour des durées de 6 mois, hein, puisque ça devient le maximum. Les conditions et modalités de la rétention, par contre, restent inchangées. Et ça, évidemment, elle reste quand même beaucoup dans la main des États membres. Dernière disposition, et c'est sans doute pas la moindre, c'est même peut-être la plus importante, c'est l'article 22, qui est aussi un article entièrement nouveau et qui instaure ce qu'on appelle la procédure à la frontière, qui est en réalité une disposition qui va traiter spécifiquement du cas des demandeurs d'asile dont la demande d'asile a été présentée au moment où ils sont arrivés à la frontière, donc quand ils arrivent aux frontières de l'État membre. Ils sont retenus à la frontière au moment où ils déclarent vouloir demander une protection internationale. Et elle est examinée avant même qu'il n'ait pu entrer sur le territoire national, cette demande d'asile, soit la demande d'asile elle-même, soit la demande de l'examen de la recevabilité de la demande d'asile, puisque les législations peuvent varier sur ce point. Alors là, la directive, elle a évidemment pour objet d'articuler cette situation donc, du débouté à la frontière avec la procédure d'éloignement. C'est-à-dire faire en sorte que la personne puisse être éloignée sans rentrer sur le territoire national, c'est-à-dire sitôt qu'elle est déboutée de sa demande ou de l'examen de sa recevabilité de sa demande, on doit pouvoir organiser son éloignement et c'est l'objet de cette disposition. Donc, les législations nationales devront prévoir que, sauf dans des cas très exceptionnels, aucun délai de départ volontaire ne sera accordé à la personne qui, ayant été déboutée, voit ipso facto notifier une décision d'éloignement. Donc, je suis débouté de ma demande d'asile, cette décision est définitive, le rejet de ma demande d'asile est définitif, je fais ipso facto l'objet d'une décision d'éloignement dans la foulée, et cette décision d'éloignement prévoira mécaniquement, sans qu'il y ait de discussion possible, le refus de tout délai de départ volontaire. Parce qu'évidemment, si on donne un délai de départ volontaire, ça veut dire que la personne va partir dans la nature, etc. Le délai de recours contre la décision d'éloignement prise dans ces conditions ne pourra pas excéder 48 heures. Et ce recours ne sera suspensif qu'à la condition qu'il existe un risque de violation du principe de non-refoulement, première condition. Et dans ce cas, donc s'il existe un risque de violation du principe de non-refoulement, dans deux hypothèses seulement, si des éléments nouveaux sont apparus ou ont été produits après le rejet de la demande d'asile, ou si ce rejet n'a pas fait l'objet d'un contrôle juridictionnel effectif. Dernière disposition qui devra être intégrée dans les législations nationales, évidemment, la personne qu'il s'agit d'éloigner dans ces conditions, c'est-à-dire après un débouté à la frontière, pourra être placée en rétention pour une durée de 4 mois. Je vois deux conséquences principales de risque, mais il ne faut pas être grand clair pour les voir. D'abord, pour l'exercice du droit d'asile, vous avez compris que le caractère suspensif du recours contre la décision d'éloignement ne jouera que dans deux conditions. S'il y a un risque de violation du principe de non-refoulement et si la personne est en mesure de justifier qu'elle peut apporter des éléments nouveaux pour l'examen de sa demande de protection. Or, ces deux conditions, tant que le recours ne sera pas formé ou tant qu'il ne sera pas jugé, ces conditions, qu'est-ce qui va les apprécier ? C'est l'administration. Qui d'autre pourra dire si effectivement il y a un risque de violation du principe de non-refoulement ou qu'il y a des éléments nouveaux ? Tant qu'un juge ne l'aura pas dit, ça sera l'administration. Et donc, sauf à ce que les législations nationales soient plus protectrices, tel qu'il est imaginé, le dispositif semble laisser la porte ouverte à des éloignements avant même que le caractère suspensif d'un éventuel recours puisse être constaté par un juge. Donc, encore une fois, il faudra voir ce qui va sortir de cette disposition au final, après examen par le Parlement, mais dans l'état actuel, c'est particulièrement inquiétant. Deuxième aspect inquiétant, évidemment, c'est sur le placement en rétention. La proposition prévoit que le demandeur d'asile débouté peut être maintenu en rétention pour une durée de 4 mois lorsqu'il y a été placé conformément à l'article 8 de la directive relative aux conditions d'accueil. Là, je ne rentre pas dans les détails techniques parce que c'est assez compliqué. On pourra peut-être en parler dans la discussion, mais il semble qu'il y ait une contradiction dans l'articulation entre ces deux directives. Toujours est-il que, visiblement, l'objectif de cette proposition de directive révisée, c'est de faire en sorte que la rétention puisse être systématique, automatique, et qu'elle puisse durer 4 mois, de telle sorte que, dans ce délai de rétention, l'éloignement puisse être effectivement réalisé.